Chapitre 2. Georges était donc d'une humeur presque gaie. Il avait tout de même trop souffert pour que cette reprise d'espoir ne le laissât pas encore meurtri quand il entra dans le salon de la villa où la malade l'attendait. Il était près de 5 heures, l'instant du thé pris ensemble autrefois. Maintenant, bien humble détail, mais qui avait sa muette et triste éloquence, il était seul à boire ce thé. Même cette petite excitation eût risqué d'être dangereuse pour la jeune femme, à qui l'on ne permettait plus que du lait coupé d'eau minérale. Avec une grâce de tendresse qui eût dû à jamais le guérir du soupçon, mais rien ne fait jamais évidence pour la jalousie que ces chimères, Berthe continuait à préparer de ses mains tout l'appareil de menus objets destinés au goûter de son mari, comme au temps de leur voyage de noces, quand ils promenaient leur jeune bonheur le long des routes d'Italie. Alors, comme aujourd'hui, la fine créature avait le génie de rendre intime des installations de hasard dans les chambres d'hôtels ou de maisons meublées. Mais alors, elle était toute fraîche, toute rieuse, toute rose, au lieu qu'aujourd'hui, amincie par le mal qui la minait, elle avait cette pâleur profonde, ses yeux brillants, cette bouche décolorée des êtres touchés dans un point vital. Au moment où Georges ouvrait la porte, elle venait de s'étendre de nouveau sur la chaise longue, après avoir allumé la minuscule lampe d'argent sous la bouilloire, et son joli visage creusé se détachait en souffrance sur les souples coussins de soie bleuâtre apportés pour elle. La nuance claire de ses cheveux luisait dans ce soleil descendu au bas de l'horizon et dont les rays obliques glissaient à travers les fentes des persiennes baissées. Ainsi couché, son frêle corps à peine dessiné, sous l'étoffe de sa robe de chambre en dentelle à ruban mauve, avec ses bras nus sortant des larges manches, la pointe de ses pieds prise dans ses mules de cuir blanc, c'était une apparition aussi torturante que délicieuse, par le trop de délicatesse, par cette impression d'une gracilité trop nerveuse. Mais les paroles du médecin vibraient toujours dans l'oreille de Georges, et ce fut avec une allégresse dans la voix, un peu voulue et cependant sincère, qu'il dit « Tu ne me reprocheras plus d'être paresseux. Depuis que je t'ai quitté, je n'ai pas cessé de marcher. Je suis allé jusqu'au village de... Ces noms allemands sont trop difficiles à prononcer, j'y renonce. Enfin, j'ai fait au moins 3 lieues. J'ai bien gagné ma tasse de thé. Et toi ?
Moi, j'ai continué à me sentir très bien, répondit-elle. Puis, avec un rien d'hésitation et tout en versant l'eau bouillante dans la théière, j'ai regretté seulement de t'avoir poussé à sortir. Tu aurais eu une visite qui t'aurait un peu distrait, au lieu que moi, elle m'ennuyait.
Une visite ? Interrogea-t-il. Son accent continuait d'être si tranquille que la jeune femme parut soulagée d'un poids. Elle eut un sourire d'enfant pour lui dire en lui prenant la main
« Suis-je sotte ? Crois-tu que je me suis reproché de l'avoir reçue ? Il faut dire que c'était bien difficile de faire autrement. Ce domestique de la villa est donc maladroit ? J'entends quelqu'un qui sonne, puis qui demande dans l'antichambre si j'y suis, et ce garçon vient m'apporter la carte sans même refermer la porte. Ce n'est qu'après avoir répondu « Faites entrer » que l'idée m'est venue, pourvu que mon Georges ne soit pas contrarié.
« Pauvre ami, répondit Coutereau, faut-il que je t'aie fatigué de mes folles idées pour que tu me parles ainsi ? Je croyais pourtant avoir bien prouvé que je ne les avais plus. Regarde-moi bien en face. Vois si j'ai l'air d'un jaloux qui va commencer une enquête. Allons, madame, dites-moi quel est le beau monsieur de Paris qui a fait tout ce voyage pour venir vous parler en l'absence de votre mari ?»«
Merci, répondit-elle avec un rire de petite fille rassurée, et d'un ton décidé, elle ajouta « Eh bien, ce monsieur, c'est quelqu'un que mon mari n'aime pas beaucoup, en effet, on n'a jamais bien su pourquoi, car c'est un homme très agréable et qui a du talent. C'est Maxime Fauriel. »«
Maxime Fauriel ?» répéta Georges. Il s'attendait si peu à ce nom du portraitiste à la mode, dont il avait été si jaloux un soir, que la jeune femme ne put s'empêcher de rire davantage encore, non sans un rien d'énervement. Elle n'était plus tout à fait aussi calme.
« Mais oui, continua-t-elle, la chose est très simple. Il paraît que Fauriel est en train de faire un voyage en automobile avec des amis dans cette partie de l'Allemagne. Ils se sont arrêtés à Nauheim pour déjeuner en route vers Francfort. Il a vu notre nom. Il s'est souvenu que j'étais malade et il a eu la gentille idée de venir demander de mes nouvelles. Tu sais comment j'ai été amenée à le recevoir. Il est resté une demi-heure. J'ai insisté pour qu'il t'attendît. J'aurais préféré que tu le trouvasses ici quand tu rentrerais. Tu as un peu tardé et lui, ne voyageant pas seul, le temps de sa visite était compté. Tu n'auras pas de crise, tu me le promets ? Une véritable supplication était empreinte sur son visage. Elle, qui subissait quotidiennement de ces attaques sinistrement nommées d'angines de poitrine, durant lesquelles elle croyait mourir d'anxiété, d'étouffement et aussi de douleur, elle parlait de crise à propos de ces accès de défiance, si injustes, si déraisonnables, si gratuits, dont elle avait vu son mari possédé. Elle ne les lui reprochait pas, elle l'en plaignait. Georges Coutreau n'aurait pas été l'homme qu'il était, très généreux et très tendre, en dehors de ses heures d'aberration, s'il n'avait pas senti cette délicatesse. Il était de bonne foi en répondant « Je n'aurai pas de crise. Au contraire, je suis reconnaissant à Fauriel d'avoir pensé à venir savoir comment tu allais. Cette attention me réconcilie avec lui, car c'est vrai que son image est associée par moi à des souvenirs pénibles, à des remords presque. » J'ai été si absurde avec toi, un soir, à cause de lui. Croirais-tu que j'y pensais en me promenant ? C'est étrange, n'est-ce pas ? Juste au moment où il était ici. Mais laissons cela. Raconte-moi plutôt quelles nouvelles il t'a données de Paris. Oui, il était de bonne foi dans cette protestation, de bonne foi dans sa volonté d'épargner à cette femme si atteinte et si aimée des scènes comme celles de jadis. Et déjà, pourtant, sa sérénité de tout à l'heure était diminuée. Il écoutait Berthe redire par le menu les propos que lui avait tenus le visiteur de passage. Il était de toute évidence qu'elle cherchait à se rappeler le moindre détail afin de ne laisser place à aucune équivoque entre elle et son mari. Cette évidence, la raison de Georges la comprenait. Le malaise n'en était pas moins là, mais vague encore, assez imprécis pour qu'il pût, sans trop de contraintes extérieures, le dissimuler au regard de la malade durant le dîner et la soirée. Lorsqu'ils se séparèrent, vers les 10 heures, il avait le droit, retiré dans sa chambre, de se dire, comme il fit, en se préparant à s'endormir, « Kraft serait content de moi. J'ai bien caché à Berthe ce soir que cette visite m'avait été désagréable. » Bah, demain, je n'y penserai même plus. » Il se coucha sur cette certitude et tout de suite, il éteignit la lumière avec cette hâte d'entrer, de se plonger dans ce sommeil que connaissent bien tous ceux qui ont longtemps subi une torturante obsession. Il ne s'endormit pas et voilà que, tout d'un coup, une idée surgit dans le champ de sa pensée dont la seule apparition lui donna un de ces petits passages de fièvre nerveuse, symptôme précurseur, il le comprit, de l'accès tout proche. Il se rappela que cet après-midi, Berthe l'avait pressé de sortir pour une longue promenade avec une insistance singulière. Il lui avait même dit en plaisantant « Je vais te débarrasser de moi pour une heure ou deux. Es-tu contente ?»« Oui, » avait-elle répondu en plaisantant aussi. Plaisantait-elle ? Georges Coutreau aperçut soudain une coïncidence entre cette attitude de sa femme et l'arrivée si complètement inattendue de Maxime Fauriel à Nahouem. L'esprit n'a pas deux méthodes. La formule avec laquelle les savants construisent leurs lois, « tout se passe comme si » est celle que se prononce instinctivement tout homme qui va cherchant des rapports de cause à effet entre des circonstances dont il est préoccupé. Si Berthe avait su que Fauriel devait venir la voir, qu'aurait-elle fait d'autre que d'écarter ainsi son mari ? Georges entrevit cette hypothèse dans un éclair. Elle lui fit aussitôt si mal que toutes les puissances de son âme réagirent là contre. Pour que la jeune femme sût le passage de Fauriel à Nahouem, il eût fallu qu'ils fussent en correspondance à son insu. Pendant quelques instants, ce raisonnement apaisa le tumulte dont le jaloux se sentait envahi. Régulièrement, la poste arrivait vers les 11 heures. Tantôt, c'était à Coutreau que le portier de la villa remettait le paquet, tantôt à Madame Coutreau, quelquefois à tous les deux, et 9 fois sur 10, le triage se faisait en commun. Était-ce là des procédés conciliables avec l'organisation d'une correspondance clandestine ? Georges se répondit que non, mais l'énergie même avec laquelle il se répétait mentalement cette syllabe « Non, non, non !» prouvait trop que l'accès allait reprendre. Non, quand une femme trompe, l'ABC de sa diplomatie ne consiste-t-il pas précisément à multiplier les petites actions naturelles qui empêchent l'éveil de la défiance ? Un nouveau souvenir surgissait. Georges se voyait entrant chez Berthe il y avait 3 ou 4 jours et la trouvant occupée à déchirer des lettres. Quelles lettres ? Pourquoi ces petites mains, leurs gestes étaient là, sous ses yeux, s'acharnaient-elles à réduire en 6 petites parcelles ces feuilles de papier, révélatrices de quoi ? Sur le moment, il n'avait vu dans cette minutie qu'un signe des soins apportés par Berthe à toute chose. Il était trop naturel qu'écrivant librement à des amis ou à ses parents de France et en recevant de libres réponses, elle tînt à n'en laisser aucune trace qui pût tomber par un hasard quelconque sous des yeux indiscrets. Le soupçon avait déjà fait de tels ravages dans l'imagination tourmentée du mari qu'impulsivement et après s'être débattu contre la seule idée de cette basse inquisition, il finit par se lever et, sa bougie à la main comme un voleur, il se glissa sur la pointe des pieds jusque dans le petit salon. Peut-être trouverait-il dans cette corbeille, dans un tiroir, sur les feuilles du buvard, un débris unique, de quoi surprendre une ligne d'écriture, un mot. Il ne réalisa la honte de cet espionnage qu'après en avoir éprouvé la puérilité. Il n'y avait dans la corbeille que des lettres de faire-part, déchirées par le milieu et les journaux de la veille. La clé en était sur tous les tiroirs, et quand il eut placé le buvard devant la glace, la première ligne qu'il y lut était une adresse de fournisseur. « Je redeviens fou !» se dit-il en retournant dans sa chambre, et il écoutait, si aucun bruit ne venait, de la pièce où dormait la douce enfant à laquelle il infligeait ce secret outrage. C'est aussi déshonorant que stupide une pareille enquête, comme si Berthe n'avait pas 20 autres moyens d'entretenir une correspondance clandestine. Mais elle n'en entretient pas, c'est insensé. D'autres moyens, l'année précédente, un procès de divorce avait été plaidé entre personnes de leur intimité. L'incident capital avait consisté dans la découverte par un mari, jusque-là complètement aveugle, du rôle joué par une domestique qui servait d'intermédiaire. Les amants s'écrivaient sous son couvert. Quel outrage plus atroce encore, cette supposition d'une ignoble complicité avec une servante. Georges rejeta d'abord cette idée avec un dégoût pour lui-même qui ne tint pas contre la levée soudaine d'un nouveau souvenir. Il était, en ces quelques heures, arrivé à ce point de frénésie où les moindres indices prévalent contre tous les scrupules. N'avait-il pas eu, 15 jours plus tôt, une légère discussion avec Berthe à l'occasion de leur femme de chambre ? À la suite d'une négligence de cette fille, il avait parlé de la renvoyer. La malade s'y était vivement opposée. Elle était trop souffrante, avait-elle dit, pour ne pas craindre un changement dans le service, si imparfait fût-il. Ce motif était-il le vrai ? Le jaloux se surprit à essayer de se rappeler toute l'histoire des rapports de Berthe et de cette femme de chambre depuis 2 ans qu'elle l'avait à son service. Ces rapports n'avaient-ils pas changé ? Cette créature n'avait-elle pas une arrogance qui prouvait une complicité ? Quelle misère pour un homme qui se respecte que de s'hypnotiser sur de pareilles questions ! Quelle misère aussi que d'employer sa force d'intelligence à des examens rétrospectifs où toutes les perspectives du passé se faussent et la jalousie qui a projeté hors d'elle ce mirage croit y retrouver la réalité. Il faut pourtant un fondement à des soupçons tels que ceux dont Georges venait de dresser le chimérique, le monstrueux édifice. Pour que Berthe pût avoir cette correspondance secrète avec Fauriel, il était nécessaire qu'elle eût eu d'autres relations avec lui à Paris. Les officiels, les seuls que le mari connut, se réduisaient à des rencontres chez des amis communs, puis à des dîners échangés. Les Coutereaux avaient été invités chez les Fauriel, qu'ils avaient invités à leur tour. Il avait même été question que le peintre à la mode fît le portrait de Berthe. Il était venu assez souvent chez elle à ce moment-là. Le fameux bal avait eu lieu. Ce projet du portrait avait été abandonné. Les deux ménages n'avaient plus eu l'un avec l'autre que des rapports très espacés. Était-il possible qu'entre l'artiste et la jeune femme, une intimité se fût établie que le mari n'avait pas soupçonnée et dont cette visite aux eaux aurait été un épisode ? Quelle intimité ! Rendons cette justice à cet homme malheureux qu'il n'allait pas dans sa démence jusqu'à concevoir que Berthe pût être la maîtresse de Fauriel. Qu'elle se fût laissée simplement faire la cour à son insu, c'en était assez. À cette seule idée, il se retournait dans son lit, en proie à ce torturant appétit de connaître à tout prix la vérité, qui fait du jaloux un possédé, capable, pour apaiser cette faim et cette soif, des plus déshonorantes ruses et des plus graves violences, quitte à verser ensuite les larmes de sang du mort, quand il s'écrie « Froide, mon enfant, comme ta chasteté !» Et il ajoute « Lorsque nous nous rencontrerons au jugement, ce regard suffira, le tien, pour précipiter mon âme hors du paradis. »